Conférence spirituelle par le Père Merlunic Philippe, le 4 juillet 2002 à Saint-Judard.
Ce serait intéressant de comparer la sagesse philosophique et la sainteté. Ce serait intéressant. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus est nommée docteur de l'Église. Donc, est une personnalité remarquable. Et c'est très vrai. Mais pour un sage de ce monde, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus est une petite carmélite. Elle était poussée par l'Esprit Saint à aller toujours au-delà du droit canon. C'est merveilleux, c'est la sainte du droit canon. Parce qu'elle l'a toujours dépassé. Le droit canon l'interdisait d'entrer au Carmel avant telle date. Elle a voulu trouver le Saint-Père pour lui demander la permission de dépasser. Elle n'était pas vieille. À ce moment-là, elle a obtenu ça. C'est assez étonnant. Elle a brûlé le droit canon, c'est la justice. Autant qu'on le peut. Justice au service de la liberté de l'homme. Pour que on n'exagère pas au point de vue religieux. Mais ce n'est pas les béatitudes évangéliques. C'est intéressant, du reste, de faire le parallèle entre les béatitudes évangéliques et le droit canon. Ce serait très intéressant. Mais c'est pas ça que je veux vous parler ce soir. La sainteté, elle consiste en l'amour qui nous unit au Christ. Être le plus proche possible du Christ, l'ami du Christ. Les béatitudes évangéliques proclament l'esprit de la sainteté. Il est sûr qu'un saint Thomas est un amoureux de la pauvreté évangélique. Lui qui possède des très grandes richesses intellectuelles, qui de son temps était reconnu, ayant comme maître Albert le Grand, qui était lui encore plus reconnu. Et Albert le Grand reconnaissait la grandeur de Thomas d'Aquin et n'a pas hésité de le défendre lorsqu'il était attaqué. Parce que saint Thomas a été un grand réformateur intellectuel. Il a eu une audace extraordinaire vu de son temps. Et il n'a pas hésité de le faire à cause de l'amour qu'il avait pour la vérité. La sainteté, est-ce que c'est l'amour de la vérité? La sainteté implique l'amour de la vérité. Est-ce que la sagesse implique aussi l'amour de la vérité? C'est peut-être l'amour de la vérité qui lie la sainteté avec la personne. C'est curieux. C'est sans doute l'amour de la vérité qui nous permettrait de comprendre comment la sainteté humaine assume l'amour de la vérité et va plus loin, parce que la sainteté implique la béatitude des miséricordieux. Et c'est peut-être cela qui montre bien le caractère propre de la sainteté. C'est un fait assez étonnant qui caractérise assez bien notre temps, de voir la sainteté de la petite Thérèse. C'est quand même quelque chose de très remarquable. La sainteté de Sainte Faustine, c'est quelque chose aussi très remarquable. La sainteté de Padre Pio, c'est aussi quelque chose de très grand. Quand on essaie de comparer la sainteté de Thomas d'Aquin et celle de la petite Thérèse, à Saint Jean, nous prenons Saint Thomas et la petite Sainte Thérèse. Nous essayons de vivre de la sainteté de Thomas et de la sainteté de la petite Thérèse. Et nous voulons unir les deux. Parce que Saint Thomas en face de la petite Thérèse aurait proclamé sa très grande sainteté. Et aurait sûrement demandé que la manière d'exercer la sainteté de Thomas d'Aquin et la sainteté de la petite Thérèse. Et c'est très beau et c'est très grand de regarder cela. Je crois que ça fait comprendre tout l'évangile de Saint Jean. Et ça fait comprendre la spiritualité propre de la communauté Saint-Jean. On dirait aujourd'hui le charisme. Nous sommes rattachés à Saint-Jean le théologien. Et nous voulons vivre de cet esprit de Saint-Jean avec saint Thomas, qui nous maintient dans la recherche de la vérité. Saint Thomas, c'est cela, c'est la recherche de la vérité. Et tous ceux qui quittent saint Thomas n'ont plus la même audace de la recherche de la vérité. Dans notre temps actuel, notre siècle actuel, il faut une très grande audace pour suivre Thomas d'Aquin. Parce qu'on a la tendance de dire qu'il est complètement démodé. C'est évident que si l'on suit les modes intellectuelles, parce que c'est les modes intellectuels qui marquent le plus l'intelligence humaine. Saint Thomas d'Aquin arrive en dernier lieu. C'est la mode de nos grands-mères. Et la mode de nos grands-mères, c'est pas tout à fait la mode des petites jeunes filles d'aujourd'hui. Vous voyez, quand on regarde l'extérieur, quand on regarde l'intérieur, le siècle d'aujourd'hui est très marqué par les manifestations. On aime les manifestations. On aime la philosophie de la manifestation. C'est plus facile que de chercher en profondeur ce qui est l'être, toujours caché. La recherche de la vérité n'est pas dans la recherche de la manifestation. Et saint Thomas, c'est la recherche de la vérité. Avec beaucoup d'audace, beaucoup de clairvoyance, une très grande force. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, c'est la recherche de la petite voix. C'est la recherche de l'enfant bien-aimé du Père. Et le souci de tout faire pour plaire au Père. C'est très extraordinaire de voir ça. Et c'est très étonnant. Et à la suite de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, nous avons cette petite sainte qu'on n'osait pas proclamer comme une sainte. Elle effarouchait les théologiens. Et les théologiens disaient « Est-ce que c'est juste ?» Alors on a retardé sa sainteté. On l'a mise un petit peu au coin, Sainte Faustine. C'était trop réaliste au point de vue miséricorde. C'était trop grand. Alors, on ne l'a pas condamnée, mais on l'a mise en son coin. Puis notre pape, qui a toutes les audaces possibles au point de vue saint Thomas, fides et ratio, il a dit sur saint Thomas, aucun pape n'a dit ça. Alors dire que saint Thomas n'est plus notre temps, c'est aller contre le Saint-Père. Oh, c'est grave, ça. Mais le Saint-Père a compris Thomas d'Aquin comme très peu le comprennent. L'ouverture à la miséricorde. Parce que Thomas d'Aquin c'est, je crois, le théologien de Saint Jean. C'est Saint Jean qui est le théologien qui le fonde le plus directement. Et Saint Jean a été le théologien du Verbe et du Paraclet. Il a été le théologien de l'amour de Marie pour Jésus. Il a été le théologien qui a montré de la manière la plus étonnante que Marie, donnée à Jean comme mère, nous est donnée comme mère. Et c'est donc cette miséricorde maternelle qui est montrée dans toute sa force. Le gouvernement du Père prend son sommet dans le gouvernement du Père sur sa toute petite enfant, Marie. Elle est la petite fille du Père. Elle est le sommet du peuple juif. Elle est le sommet de l'Église chrétienne. Elle est le sommet de l'Église tout court. Est le sommet de l'humanité. Rien n'a été plus grand dans l'humanité que la mère de Dieu. C'est merveilleux, cela. C'est une manière étonnante pour Dieu non seulement de réhabiliter Ève, de réhabiliter la femme, de réhabiliter la mère, mais c'est aussi, puisqu'il la donne comme mère à Jean, le disciple bien-aimé, vouloir qu'elle soit pour nous la médiatrice la plus parfaite. La médiatrice qui touche et réalise le vrai médiateur, Jésus. Elle est la clé de voûte, Marie. Et c'est vrai, si on quitte Marie, on ne peut plus comprendre ce qu'il y a de tout à fait propre au christianisme. Marie n'est pas le retour à Ève, Ève sans péché, mais Marie représente le pardon de Dieu à l'égard d'Ève. La petite-fille d'Adam, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille d'Adam, malgré qu'Adam ait péché à cause d'Ève, est une réhabilitation divine, merveilleuse d'Ève. C'est une réhabilitation extraordinaire de la maternité. Être mère de son Dieu. Avoir eu comme petit enfant le lien entre la mère et l'enfant. Aucun enfant n'a ressemblé autant à sa mère que le petit Jésus à Marie. Au point de vue sensibilité, il n'y avait qu'un atavisme. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de l'atavisme. L'atavisme, c'est dans le temps. Et donc, aucun enfant n'a ressemblé autant à sa mère que l'enfant Jésus à Marie. C'est merveilleux, cela. La gloire de la mère, c'est toujours son enfant. Et la gloire de Marie, c'est la gloire de Jésus. Elle est notre gloire. Et elle est celle qui finalise toute notre humanité. Finalité, elle finalise toute notre humanité. Elle donne à toute notre humanité son sens. Puisque Jésus, il est Dieu. C'est donc, il est au-delà. Marie est la fin immanente de l'humanité. La fin personnelle de toute l'humanité. Et elle nous fait saisir comment Dieu a repris l'humanité, non pas pour qu'elle revive la justice originel, le point de départ. Dieu n'aime pas de copier ce qui a été fait et abîmé. Ça, c'est les petits savants. Nous, on aime, et c'est juste de retrouver ce que les grands maîtres ont pu réaliser et que le temps avait abîmé. Ce sont des restaurations. Dieu fait beaucoup mieux parce qu'il est créateur. Il n'est pas celui qui restaure. Il est celui qui peut se servir du péché. Parce qu'il est avant. Et qu'il peut se servir du péché comme une occasion pour réaliser quelque chose de plus merveilleux. Toute la différence qui existe entre Marie et Ève nous fait comprendre que notre appartenance à Jésus, notre sanctification, toute la sanctification de l'Église est commandée par la maternité divine de Marie. et a voulu faire que l'humanité soit source de cette alliance si grande et si belle, Dieu qui épouse l'humanité, Dieu qui prend l'humanité dans sa propre personne. Qui élève l'humanité à être Dieu. C'est le rêve de certains philosophes d'aujourd'hui. C'est le rêve d'Hegel que l'humanité soit Dieu. Mais le philosophe ne peut pas le faire. Il peut y penser. Et en le faisant, sa pensée n'est pas exacte, puisque seul le Père peut faire que l'humanité s'élève jusqu'à lui, en son Fils. Et que le Fils du Père, le Fils bien-aimé du Père, soit en même temps l'homme parfait. C'est un rétablissement extraordinaire de l'alliance brisée par le péché. Et c'est à l'égard de l'humanité lui donner une place et une valeur infiniment plus grande. L'humanité dans le Christ est infiniment plus grande que l'humanité en Adam. Et notre humanité dans le Christ connaît cette dignité. Et cette grandeur. C'est assez merveilleux, assez étonnant de voir cela. Et Marie est mère de ce très grand miracle, de cette action merveilleuse du Père et de la très sainte Trinité. Le Verbe s'est fait chair. Et c'est Saint Jean qui nous le révèle. C'est le grand secret du Jean, ça. Et le Verbe s'est fait chair. Il a compris dans sa foi ce que Marie lui a dit. Le Verbe s'est fait chair. Egeneto sarx en grec. Egeneto sarx, c'est-à-dire est devenu chair. Le Verbe de Dieu est devenu chair. Chair humaine. Vous savez, il y a un passage assez extraordinaire dans l'Apocalypse qui nous fait comprendre ce que c'est que cet Egeneto sarx. Je vous le citerai demain, parce que je ne vais pas perdre de temps pour le retrouver dans l'Apocalypse. Cette chose inouïe, l'humanité se termine en Dieu. Je me souviens de la réflexion d'un grand-père quand il a appris que son descendant, le seul qui portait son nom, s'était fait religieux. Alors il a dit, c'est beau, mon nom se termine en Dieu. Et c'est pas seulement le nom, c'est l'humanité même que Dieu chérit d'une façon telle qu'il la prend, qu'il l'assume pour qu'elle soit son fils bien-aimé. Et il veut que Marie coopère à cela, l'œuvre la plus magnifique, la plus étonnante, cette assomption de l'humanité par le Verbe de Dieu. C'est extraordinaire de voir l'amour de Dieu pour les hommes. La petite enfant descendante d'Abraham, le grand-père de Marie, Abraham, et pour Abraham, quel honneur d'avoir sa petite descendante, Marie, élevée à la dignité de mère du Fils bien-aimé. Assumant la nature humaine en elle. Et cette nature humaine, toute semblable à Marie. Quelle merveille, cela. Je crois, on peut dire que pas un enfant n'a ressemblé autant à sa mère que le petit Jésus à Marie. Cette naissance est miraculeuse et c'est la toute-puissance de Dieu qui œuvre pour que Jésus soit le Fils bien-aimé du Père et le Fils bien-aimé de Marie. C'est extraordinaire, cela, comme alliance. Plus nous étudions la grandeur de la personne humaine, plus nous voulons nous approcher de ce moment unique où Dieu, le Père, a voulu que le Verbe, son Fils, fasse subsister dans le Christ la nature humaine. Donc, Jésus, sa personne est divine. C'est le Verbe. C'est quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut penser. Et Jésus institue une nouvelle loi, une nouvelle alliance avec l'humanité. Ce n'est plus la loi donnée à Moïse, inscrite dans la pierre. C'est la nouvelle loi qui est avant tout un esprit inscrite dans le cœur du petit enfant Jésus, inscrite dans le cœur du cœur blessé de Jésus sur la croix. Ce n'est plus l'étape de la loi de Pierre, c'est le cœur charnel, tendre. Il n'y a jamais eu un cœur aussi tendre que celui du cœur du Christ. Il ressemblait au cœur de sa mère. C'est beau. C'est la mère qui s'efface devant son fils. C'est toujours comme ça. La mère s'efface devant son fils. Et combien Marie s'est effacée devant Jésus. Et c'est à travers le cœur de Jésus qu'est inscrit les béatitudes. Et la première des béatitudes, c'est la pauvreté, pour que l'ultime béatitude soit la miséricorde. Et Jésus est venu établir au milieu de nous une exigence de pauvreté, une exigence de miséricorde. Les deux vont ensemble. Si on vit de la béatitude des pauvres, c'est pour être infiniment miséricordieux. Réfléchissons dans notre vie. Tous nos manques de miséricorde proviennent de nos manques de pauvreté. Si nous étions vraiment pauvres, nous aurions été vraiment miséricordieux. Puisque le pauvre, c'est celui qui attend tout de Dieu et qui s'efface pour laisser Dieu tout prendre. Alors si Dieu prend tout, c'est une miséricorde plénière qui prend tout. Dans la loi de Moïse, la justice entre les hommes tient une place capitale. La justice envers Dieu tient une place capitale, encore plus profonde, encore plus capitale, l'adoration. Dans la nouvelle loi inscrite dans le cœur de l'agneau, inscrite dans le cœur de Jésus, dans la nouvelle loi, inscrite dans la chair humaine, non plus dans la pierre. C'est la pauvreté et la miséricorde. Et c'est pour cela que le Saint-Père nous rappelle la grandeur de cette petite sainte, Sainte Faustine. Il nous montre cette miséricorde qui est comme le secret du gouvernement du Père. Le secret du gouvernement du Père, c'est la miséricorde. Dans toute politique, le secret, c'est la justice. Le secret du gouvernement du Père, c'est la miséricorde. Et ce secret nous est donné par le cœur de Jésus, le cœur de l'agneau de l'Apocalypse, en qui toutes les décisions de Dieu passent à travers le cœur de l'agneau, illuminé par le corps de l'agneau, transformé par le corps de l'agneau. La miséricorde. La miséricorde devient vraiment la grande lumière pour le gouvernement divin. Et non pas la justice, c'est la miséricorde. C'est très important pour nous de comprendre ça. La clé du gouvernement du Père, c'est la miséricorde. La miséricorde de l'agneau, elle passe à travers le cœur blessé de l'agneau. Et le cœur blessé de l'agneau a été infiniment pauvre. Alors c'est cette alliance de la pauvreté et la miséricorde. Et c'est bien cela, notre vie chrétienne. Tout passe par la miséricorde et la pauvreté de l'agneau, c'est-à-dire du cœur blessé de Jésus.